talmudique. Yeshaya d'Alsace, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous retrouver pour poursuivre notre conversation autour de la fête de Hanouka qui a commencé hier soir par l'allumage d'une première bougie. La clarté s'épanouira lentement selon un rythme d'une phrase qui va crescendo. Une lumière le premier soir, deux lumières le lendemain, trois le surlendemain et ainsi de suite jusqu'à l'éclat triomphal du huitième jour. Et j'emprunte la formule à Lévinas dans le très bel article consacré à Hanouka dans son ouvrage Difficile Liberté que nous avons déjà cité la semaine dernière. Nous avons vu justement la semaine dernière que Hanouka signifiait à la fois inauguration et éducation. Et je me demande si cette manière d'allumer les bougies ne dit pas quelque chose d'important sur la dynamique pédagogique, Rabbin d'Alsace.
Certainement. D'abord, déjà, elle demande de faire un geste. Rien que ça, n'importe quel geste. Le judaïsme aime beaucoup ça, hein. C'est pas propre à Hanouka, c'est vrai de la plupart des fêtes. On nous demande de faire quelque chose. Le corps est pris à partie. Ici, c'est le sens de la vue, puisqu'on allume des lumières. Mais notamment dans la coutume ashkénaze, parce que les séfarades, c'est vrai, souvent on n'allume qu'une seule Hanouka. Mais moi, je préfère la coutume ashkénaze sur cette fête-là. Chacun en allume une. Chaque enfant a sa propre Hanouka. Mais de toute façon, même quand on n'en allume qu'une seule, souvent on fait allumer toujours un enfant aussi et une des bougies. Et donc, si chaque enfant allume ne serait-ce au moins qu'une lumière, mais même a fortiori s'il a sa propre Hanouka, donc c'est-à-dire son propre chandelier, eh bien, c'est la meilleure des pédagogies. C'est tout simplement de faire. Un gosse qui fait ça, il ne peut que se demander pourquoi il le fait. Alors peut-être qu'il pose pas la question à fond, parce que bon, mais c'est ancré dans sa mémoire sensorielle et ça lui plaît bien évidemment.
Il y a quelque chose de magique avec une bougie d'allumer une autre bougie.
Bien sûr.
Il y a une sorte de pouvoir de.
Et puis ça le fait compter. Il sait qu'il y a 8 jours, il sait qu'il y en aura 8, il attend le 8e avec impatience aussi, puisque ça sera ce crescendo dont vous avez parlé. Donc, moi, je pense que la pédagogie, elle commence là, déjà, tout simplement. Deuxièmement, on doit se poser la question, voilà, pourquoi augmenter comme ça? Pourquoi ça augmente? Alors là, ça devient plus élaboré, plus compliqué, c'est toute une discussion dans le Talmud là-dessus.
On va aborder tout de suite après.
La problématique aussi, dans le geste, si je reviens au geste que fait l'enfant, c'est qu'il y a une hiérarchie dans ces lumières, dans ces bougies. Il y a une hiérarchie, parce qu'en fait, c'est assez compliqué d'ailleurs, difficile d'expliquer ça à la radio, mais on allume, on va de droite à gauche, comme on écrit en hébreu, mais en fait on allume de gauche à droite parce qu'on allume la nouvelle bougie à chaque fois. Plus c'est subtil, plus le gosse est content. Et en plus de ça, il y a une hiérarchie dans les bougies, parce qu'il y a un chamash, c'est une 9e bougie qui sert à rien en fait, mais qui est là pour servir,
pour
allumer les autres, et puis pour éclairer éventuellement, enfin bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est elle qu'il faut allumer en premier. Donc, toute cette gymnastique-là, c'est une pédagogie merveilleuse, en soi.
Alors, il est essentiel de noter aussi que dans le Talmud, vous l'avez déjà suggéré, il y a deux opinions sur la modalité de l'allumage, celle de Hillel et celle de Shammai, deux maîtres, deux écoles qui s'opposent, ce qui souligne l'idée que nous avons vue la dernière fois de la nécessité d'une double perspective en toute chose. Mais comment comprendre cette modalité d'allumage que propose Shammai? C'est-à-dire, lui, vous allez nous l'expliquer, ne propose pas d'allumer une bougie le premier jour, une deuxième le deuxième, une troisième le troisième, mais inversement. On commence le premier jour par 8 bougies, et puis on va aller de manière dégressive, 8, 7, 6, etc. Ne serait-ce pas, et cela c'est la question que je vous pose, Rabbin d'Alsace, une invitation au sein de la lumière de ne pas oublier l'ombre, le silence, la discrétion et l'intime? C'est le mot lumière lui-même qui m'a fait penser à cette idée, car en hébreu, la lumière se dit or, ça s'écrit Aleph Vav Resh, 3 lettres, dont la valeur numérique est 207, qui est aussi la valeur numérique du mot raz, qui veut dire le secret. Équivalence numérique que les maîtres de la tradition prennent très au sérieux pour nous inviter à penser la lumière avec plus de subtilité. Rabbin d'Alsace.
Ah, si on s'amuse comme ça, on peut dire aussi que Nefesh, Ner, Ptil et Shemen. C'est-à-dire, Nefesh, l'âme, c'est la lampe, la mèche et l'huile. Donc voilà, il y a beaucoup de quoi s'amuser, bien sûr, avec ce genre de choses. Et,
Un jeu très sérieux, puisque fait, ce sont des ouvertures à la créativité, telles que vous nous l'avez proposé.
De toute façon, le jeu est toujours sérieux.
Hein. La dernière fois, oui.
Les gens qui ne savent pas jouer sont des gens très dangereux. Et, le fait est que dans cette histoire d'ordre donné pour allumer, il y a Beth Shammai, vous l'avez dit, qui demande qu'on allume 8 le premier jour, puis on va en diminuant. Ça fait qu'il n'y en aura plus qu'une bougie le dernier jour de Hanouka. Donc, c'est un peu triste, d'ailleurs. Mais personne ne fait comme ça. Heureusement, on a pris l'autre opinion, Beth Hillel, où ça va en augmentant. Et il y a donc cette machloket, cette discussion dans le Talmud. La question est de savoir qu'est-ce qui habite cette discussion. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, il y a plusieurs opinions. On peut l'expliquer de plein de façons. Mais il semble que pour Beth Shammai, Le début est plus important que la fin, alors que pour Beth Hillel, c'est l'inverse. La question, c'est qu'est-ce que c'est le début, qu'est-ce que c'est la fin? On peut comprendre ça, par exemple, le début, c'est le fait qu'il faut raconter pour que les gens comprennent, il faut raconter la légende dont on a parlé la dernière fois, qui est racontée dans celle de la fiole d'huile, mais il faut la répéter, peut-être tout le monde ne connaît pas. Et il y a une fiole d'huile qui a été trouvée dans le temple, une petite fiole toute petite, qu'il fallait rallumer la fameuse menorah du temple, et il n'y a qu'une seule petite fiole, une seule journée en fait d'huile, et miracle, cette seule journée dure 8 jours, et il fallait 8 jours théoriquement pour fabriquer de l'huile, d'après cette histoire. Bon, donc la question derrière, c'est où est le miracle? Est-ce que le miracle, parce que le miracle est en fait caché dans cette affaire, vous qui parliez justement de délicatesse et de caché, le miracle n'est pas visible. J'ai allumé une lampe, ça c'est naturel, avec de l'huile, ce qui est naturel, une mèche. Ce qui n'est pas naturel, c'est que ça dure plus longtemps que ça en avait l'air. Mais dans le fond, c'est pas extraordinaire. J'ai pas fait descendre du feu du ciel, j'ai pas fait quelque chose d'absolument fabuleux. J'ai juste allumé naturellement, mais le naturel a duré plus longtemps. Donc c'est un miracle qui n'est pas très visible. En plus, il est d'autant moins visible qu'il se passe dans le temple, ce qui est un endroit caché par excellence, ou qu'on pourrait entrevoir, et ce qui est le cas des lumières de Hanouka, entre parenthèses, qui sont peu visibles. D'ailleurs, c'est un jeu toujours de regarder quelle fenêtre, au moment de Hanouka, s'il y a des Hanoukiotes sur la fenêtre, c'est pas très visible de loin, c'est pas facile à voir, c'est que des petites bougies, en fait. Le fait est que, pour Beth Shammai, le miracle serait plutôt physique. Or, le miracle physique, c'est le premier jour qu'il a lieu avant tout, beaucoup plus. Et puis il va en descendant. Au fur et à mesure qu'on approche de l'échéance, le miracle est moins impressionnant. Alors que pour Hillel, c'est une autre dimension. C'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension de ce que vont voir les gens. Le premier jour, c'est peut-être que le miracle physiquement est extraordinaire, sauf qu'on ne le sait pas. Mmh. Alors que ça, c'est l'idée de Shammai. Hillel dit, bon, le premier jour, ça ne m'impressionne pas. Deuxième jour, ça brûle 2 jours au lieu d'un jour. Ah, ça devient curieux. Ça brûle 3 jours au lieu d'un jour. Ah, ça, c'est pas mal. 4, etc. Ah, 8, alors là, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, donc, pour Hillel, la force qui impressionne les gens, c'est la durée. Plus ça dure, plus c'est impressionnant. C'est comme quelqu'un qui retient sa respiration plus longtemps qu'on pourrait le faire, ou des choses comme ça, où moi, je suis réputé sonner du chauffard très longuement aussi. Mais il y a un moment où ce qui est impressionnant, c'est les dernières secondes, c'est pas le début. Tout le monde sait sonner du chauffard quelques 10 secondes, c'est facile. 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, alors là, ça devient compliqué. Et donc, c'est la même chose. Et ce serait ça, la machloket. Mais il y a d'autres interprétations également.
Justement, d'autres interprétations, parce que j'ai l'impression, et je vous demande votre avis, j'ai l'impression que même si on ne fait que comme Hillel, c'est-à-dire un jour, une bougie, puis deux, puis trois, etc., on a en tête l'autre modalité, et que l'on conjugue, on en fait une, mais dans la tête, les deux se croisent. Et cette façon de passer de la lumière à l'obscur, avec Shammai, n'est-elle pas aussi une façon de retrouver le degré zéro du sens pour permettre, à partir de cet effacement du savoir, de construire à nouveau, d'être capable d'inaugurer une nouvelle voie? Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev dit qu'il faut retrouver le haïn, le rien, le néant, pour se découvrir soi-même, Annie, c'est-à-dire je, Annie étant l'anagramme de Aïn. Et je pense ainsi à ce très beau texte de Daniel Arras. Vous parlez que des bougies, vous avez dit que le sens convoqué, c'est la vision. Et il écrit, dans un livre qui s'appelle « On n'y voit rien », il écrit « On n'y voit rien, nous dit-on, non pas qu'il n'y ait rien à voir, mais bien plutôt que nous ne savons plus voir. D'où la nécessité de désapprendre pour revenir au plus simple, au plus brut de la vision. » Tout un programme, en fait. Et c'est peut-être ça, la description, pas dans le sens de description, c'est le dé négatif, description. Tout un programme, en fait, continue-t-il. On nous invite ici à réapprendre à voir un tableau en partant d'une lecture a priori pour mieux déconstruire le savoir stérile et ouvrir des perspectives nouvelles à l'expérience visuelle. Mais en plus de nous ouvrir les yeux et de changer notre manière d'appréhender les œuvres, voir veut dire, indiquant parlant aux aveugles en sursis que nous sommes tous, une façon de lutter contre la pesanteur inévitable de l'habitude et de la fatigue qui alourdit nos paupières chaque jour un peu plus. Voir, donc, c'est d'abord oublier, pour tout redécouvrir, chaque fois revenir à zéro, de nouveau, jusqu'à que l'évidence surgisse de la peinture elle-même en embrasant tout de notre pauvre vision ancienne. Voir, finalement, c'est faire peau neuve. Au bout du compte, rien de moins qu'une formidable occasion de faire muer notre vision en un regard sans cesse à l'affût, jamais rassasié, toujours curieux et avide de nouveautés.
Très beau texte. Alors c'est très intéressant, il parle pas de Hanouka, il parle d'art, mais c'est, oui, ça colle justement. Parfaitement. Félicitations d'avoir trouvé ce texte, oui. Parce que ce renouvellement du regard, qui est essentiel en art, c'est voilà, on peut regarder une œuvre d'art avec des yeux de vieux, je dirais. Enfin, je dis pas que les vieux, les âgés n'ont pas de bons yeux, mais des yeux fatigués. Or justement, Hanouka, il faut. D'ailleurs, il y a un texte dans le Talmud avec le Tarmoudaï, c'est celui qui a les yeux fatigués. Peut-être on peut en parler après si on a le temps. Mais le fait est qu'il faut augmenter la lumière, mais il faut renouveler notre regard sur les choses. Et c'est lié à ce dont on a parlé dans la dernière émission, il y a une semaine, sur la question de Torah chez Béalpé, la loi sur la bouche, la loi orale, la Torah, l'enseignement sur la bouche. C'est-à-dire cette capacité de renouveler. C'est-à-dire qu'en fait, une des interprétations de la Marloquette, de cette discussion entre Beit Shammai, le conservateur, et Beit Hillel, qui sont plus innovateurs, eh bien, c'est aussi cela. Beit Shammai, c'est quelqu'un qui se méfie quelque part de cette Torah chez Béalpé. Il est conservateur, il est un peu attaché au pied de la lettre, contrairement à Beit Hillel, qui est capable d'aller beaucoup plus loin. Or, plus on s'éloigne, si vous voulez, de la source, plus on risque de se perdre. Et ça, ce serait la position de Beit Shammai. Il y a plus de lumière au départ et de moins en moins. Alors que chez Hillel, c'est l'inverse. Plus on avance, plus on donne de la lumière. Et la question, du coup, c'est toutes sortes d'interprétations. C'est la question aussi, on dit « ish ou beito », un homme et sa maison. Ça, on peut l'interpréter comme un homme et sa maisonnée, les gens de sa famille, mais aussi comme un maître et ses élèves. C'est-à-dire que pour Shammai, le maître a raison, les élèves ont un petit peu moins raison, et puis jusqu'à ce qu'ils aient tort. Alors que pour Hillel, le maître a certainement raison aussi, mais les élèves ont plus raison que le maître. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de renouvellement, et ça c'est extraordinaire. C'est l'idée aussi qui est dite dans un texte talmudique qui est tout à fait ailleurs, et qui dit que tout ce qu'un élève des maîtres, un élève des élèves dira un jour, ça n'a même pas encore été dit, ça vient de Moshe au Sinaï. C'est-à-dire que Moïse a donné un élan, c'est comme une force d'inertie, qui va continuer à travers toute l'histoire. Oui. Et c'est ça, à mon avis, l'idée de Hillel aussi.
Oui, mais c'est une des interprétations. Dans mon idée de la citation de Daniel Arras, Shammai n'est pas conservateur. Shammai est celui qui comprend qu'il faut effacer le savoir que l'on a pour être capable, je dis, d'innover. C'est celui qui donne la possibilité à Hillel de sa nouveauté. Parce que si on est justement dans le non-oubli, si on garde tout, si on conserve tout, il y a un risque de perdre la force de l'innovation.
Garder, c'est Shammai.
Non, mais je dis non, pas tout garder. Shammai qui dit qu'il faut aller de 8 à 0. Il efface le savoir. Et c'est au moment où on arrive au degré zéro du savoir qu'on peut être comme Hillel. c'est-à-dire repartir 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'en fait, la condition de possibilité...
Je mélange les deux opinions
et je dis que la condition de possibilité de Hillel d'allumer 1, 2, 3, 4, c'est parce qu'on est passé de 8, 7, 6, etc. Et c'est ce que je sentais dans ce texte-là. Mais comme vous avez parlé de conservateur et que j'ai parlé d'obscur, ça me rappelle une phrase de Lévinas qui dit que pour qu'on ait trouvé cette petite fiole d'huile qui a permis le miracle, il a fallu qu'il y ait la petite fiole d'huile qui a été gardée. Et il dit, avant le miracle de la lumière généreuse, et comme condition de ce miracle, un autre miracle eut lieu. Miracle obscur qu'on oublie. On l'oublie dans l'éclat des lumières qui croissent et triomphent. Mais si dans le temple, ravagé et profané, on n'avait pas trouvé un petit flacon d'huile pure scellé par le grand prêtre, et qui, ignoré de tous mais inaltéré, subsista au cours des années où le chandelier restait vide, il n'y aurait pas eu de miracle de Hanouka, il fallait que se conserve quelque part une huile transparente et intacte. Et là, dans un lyrisme magnifique, il écrit « Ô existence nocturne repliée sur elle-même, dans les limites étroites d'une fiole oubliée, ô existence soustraite à tout contact douteux avec le dehors, existence léthargique traversant la durée, liquide sommeillant en marge de la vie, comme une doctrine conservée dans quelque yeshiva perdue, existence clandestine, isolée, dans son refuge souterrain du temps et des événements, existence éternelle, message chiffré adressé par un clerc à un clerc, pureté dérisoire dans un monde livré au mélange, ô merveille de la tradition, condition et promesse d'une pensée sans contrainte qui ne veut pas rester un écho, un remous de l'époque. » Alors, c'est peut-être un peu long.
Non, c'est un très beau texte. Oui. C'est un très bel éloge d'un certain conservatisme juif et d'une nécessité quelquefois de fermeture, ce qui est d'ailleurs le paradoxe de Hanouka, puisqu'on est à la fois une fête qui fait l'éloge d'une certaine fermeture, pureté, fiole d'huile conservée dans un coin, ce dont parle très bien Lévinas, capacité des juifs à travers les âges de conserver leur yeshiva, leur talmud, de se fermer sur eux-mêmes un petit peu, mais sans ça, ils disparaîtraient. Et en même temps, ouverture, puisque la Hanouka, elle est au bord de la fenêtre, elle doit éclairer dehors, et il y a tout l'universel de
voilà,
la fête de Hanouka.
Voilà, il termine ce texte en disant « Ô miracle, tu célèbres ces heures admirables, obscures et secrètes ». C'est encore Hendel qui nous accompagne dans cette réflexion sur Hanouka, un magnifique passage de Judas Maccabée qu'on va continuer à entendre en fond. Hanouka, je dis, mais pas seulement, car hier soir, nous avons allumé la première bougie de Hanouka, mais c'était aussi Noël, la messe de minuit, le réveillon, le sapin, les cadeaux. Heureuse coïncidence du calendrier qui fait tomber le premier jour de Hanouka avec Noël et le dernier jour de Hanouka, 8 jours plus tard, avec le premier de l'an. Sans oublier que Rosh Hashanah, le nouvel an juif de cette année, est tombé en même temps que le nouvel an musulman et que Kippour de cette année est tombé le jour de la fête musulmane de la Ashura. Quelle interprétation peut-on en proposer, Rabbin Yeshaya d'Alsace ?
Alors d'abord, déjà en soi, globalement, il me semble que le fait que ces religions qui sont souvent divergentes et ont été parfois très en conflit, eh bien, sont capables de se rejoindre au hasard du calendrier. Déjà en soi, symboliquement, c'est beau. Ça ne veut pas dire que les cœurs se rejoignent, mais c'est déjà bien, c'est déjà un début. Mais voilà, le message, il est clair que ces religions devraient dialoguer, devraient se regarder avec respect, échanger, et plutôt que être dans la méfiance et dans la séparation totale. D'autant plus qu'il y a des quantités de symboliques derrière, des clins d'œil. Alors, le nouvel an musulman, c'est compliqué parce que dans le nouvel an, ça change tout le temps avec la façon dont les musulmans comptent le temps, qui est un système purement lunaire, et donc forcément tourne autour de l'année. Donc une fois de temps en temps, forcément, ça tombera avec Rosh Hashanah, par définition, puisque c'est toujours la nouvelle lune. Bon, là-dessus, on se rejoint de temps en temps. Mais c'est intéressant de savoir que, alors j'ai pas fait le calcul, mais tous les, à peu près, je sais pas combien c'est exactement, c'est pas tous les 12 ans, c'est plus, mais enfin, tous les X années, musulmans et juifs ont le même nouvel an. Il ferait bien de se le rappeler de temps en temps, plutôt que de se taper dessus. Mais Kippour et la Shura, c'est intéressant aussi, parce que la Shura, chez les musulmans, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que les musulmans jeûnent pour se rappeler du miracle fait aux juifs. C'est Mohammed qui le dit dans le camp. C'est-à-dire, il faut se rappeler que les juifs ont été sortis d'Égypte. Donc c'est quand même extraordinaire et je crois que beaucoup de musulmans en fait s'en rendent pas compte, qui jeûnent pour honorer les juifs. Donc c'est aussi une bonne chose. Et sur la question de Noël et Hanouka, alors là il y a un rapport très fort et à mon avis vraiment intéressant. Mais pour comprendre ça, il faut retourner à l'histoire. Les Grecs, dans l'histoire de Hanouka, l'histoire de départ, les Grecs ont voulu profaner le temple pour obliger les Juifs à vouer un culte au solstice d'hiver et en fait, à travers ce solstice, au culte de l'empereur qui se compare au soleil, comme le roi soleil, afin et qui puise sa force et qui ressuscite chaque année, à chaque solstice, et qui puise une nouvelle force. Les Juifs ont refusé ça et se sont révoltés. C'est ça le départ de l'histoire de Hanouka, plus exactement de la guerre des Asmonéens, la révolte des Maccabim. Et ce solstice, cette fête, et ça c'est dit clairement dans le livre des Maccabim qu'on avait évoqué la semaine dernière, eh bien, tombait le 25 du mois de Kislev. Parce que dans le judaïsme, on compte les mois avec des noms différents et les mois sont des mois lunaires. C'est le 25 du mois. C'est devenu, quand les Juifs ont gagné cette guerre contre les Grecs, ils ont inauguré le temple, et comme par hasard, leur inauguration du temple se fait le 25 qui se lève. Vous voyez, on voit bien que c'est un peu quand même une affaire un petit peu fabriquée, si vous voulez. Donc on inaugure le temple justement le jour où on nous avait voulu nous la faire profaner. C'est-à-dire que là, moi, je trouve quelque chose de très intéressant. C'est que le judaïsme a récupéré une fête païenne qui est le solstice d'hiver, qui n'a rien à voir avec le judaïsme a priori, pour en faire une fête juive, non seulement, mais de l'affirmation de l'identité juive et de la spiritualité juive, qui par définition se confronte au paganisme et l'affronte. Et il y a un midrash intéressant qui dit qu'en fait, Adam, le premier humain, avait déjà fait Hanouka parce qu'il avait vu les jours baisser, il s'affolait, il croyait qu'il allait mourir, et puis d'un coup, il voit les jours commencer à réaugmenter, alors il a fait une fête, il a allumé des feux. Donc, les rabbins ont tout à fait conscience de ce solstice d'hiver. Le lien, donc, les juifs prennent une fête universelle, le solstice d'hiver, pour en faire un truc particulariste, Hanouka, pour dire on existe encore. Mais en même temps, on allume des bougies, on en a déjà parlé, sur le bord de la fenêtre, donc vers l'universel. Vous voyez, il y a un jeu comme ça de paradoxal de bascule. Avec l'idée du miracle caché qu'on va montrer vers l'extérieur. Dans le christianisme, on a quelque chose d'un petit peu similaire. Puisque Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus, qui se veut l'universalisant du judaïsme, c'est-à-dire celui qui va apporter la voie juive vers l'universel. C'est une lecture paulinienne, bien évidemment. Mais donc, Jésus est cela. Mais paradoxalement, Jésus, enfin, à travers le christianisme, va mettre par terre l'Empire romain. C'est-à-dire que l'empereur qui se compare au soleil et qui puise sa force dans le solstice d'hiver, enfin, comme le soleil va renaître, il a la même idée, eh bien, Noël va, en fait, être une récupération de ce solstice d'hiver pour annoncer la naissance d'un nouveau soleil, qui est évidemment Jésus pour les chrétiens. Donc il y a un rapport comme ça, un peu identique. Pareil, Jésus pour le christianisme apporte la lumière au monde. Donc, vous voyez, il y a un rapport entre Jésus et la Hanouka. Ce qui est curieux, c'est que, dans le fond, avec l'histoire, le judaïsme et le christianisme se séparent, s'affrontent, sont pas en concurrence, parce que les juifs n'ont jamais voulu prendre la place du christianisme, mais le christianisme a voulu prendre la place du judaïsme. Et donc, il y a ces fêtes, on aimerait bien que ça tombe pas au même moment. On ne veut pas se confondre, et les chrétiens ne veulent pas se confondre avec les juifs, et les juifs, évidemment, pas avec les chrétiens. Et de temps en temps, c'est le cas cette année, paf, on retombe au même moment. Et c'est le moment d'y réfléchir, c'est le moment de réfléchir à cette question de l'universel. Alors on n'a pas le temps de développer toute cette idée, parce qu'en fait c'est assez complexe, mais ça nous amène à réfléchir sur la fonction. Nous, juifs, je parle en tant que juif, hein. Nous, juifs, comment pouvons-nous penser le christianisme en tant que forme d'universalisation du judaïsme? Alors évidemment, c'est très compliqué parce qu'il y a toute la question de savoir comment on peut le penser, le christianisme ou pas, comment il faut, évidemment, c'est tout ça dans une réconciliation et pas dans la polémique anti-juive qui a habité le christianisme pendant des centaines d'années. Donc, c'est un sujet assez délicat, si vous voulez, mais il y a quelque chose là-dedans. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de signe, non pas cette année en particulier, parce que je ne crois pas au signe particulier à ce moment-là, mais le fait que de temps en temps, on soit au même moment, ça doit nous amener à
avec
réfléchir.
Cette question, oui.
Voilà. Et ça, ça me paraît fondamental. Pour nous, juifs, et pour le christianisme, bien évidemment. Et on a parlé aussi de la fiole d'huile cachée. Vous voyez, ce côté de l'intime que représente le judaïsme. Un des problèmes du judaïsme, si on peut faire une critique contre le judaïsme, c'est d'être une religion justement trop fermée sur elle-même, qui a du mal à s'ouvrir vers les autres. Même si elle a la volonté de le faire, la preuve Hanouka, entre autres. Mais elle est quand même très particulariste. Un des défauts du christianisme, c'est l'inverse. C'est à force d'universalisme d'avoir perdu la source, d'être éloigné de sa source. Et sa source textuelle est hébraïque, puisqu'on aime bien faire des jeux de mots en hébreu. Eh bien, moi je crois que là, il y a dans ce paradoxe, vous voyez, de Noël Hanouka, il y a quelque chose de très intéressant pour rééquilibrer. Comme on l'a fait un petit peu avec Beit Shammai et Beit Hillel, vous voyez, mélanger les choses, non pas confondre, mais puiser des énergies chez les uns, chez les autres, pour recentrer le discours.
Pour relancer l'histoire un petit peu comme la toupie avec laquelle on joue à Hanouka.
Parce qu'on a aussi ça, oui, un des symboles de Hanouka qui est la toupie, qui est le mouvement. Remettre en mouvement tout ça de façon lumineuse, puisqu'il s'agit d'apporter de la lumière et c'est le but dans les deux religions. Et là-dessus, ça ne peut se faire que dans le dialogue, le respect. Les chrétiens doivent respecter la petite fiole d'huile que nous représentons. Nous nous entêtons à la garder dans l'ombre, comme le disait le très beau texte de Lévinas. Et nous devons reconnaître que le christianisme est aussi capable d'une certaine luminosité vers l'extérieur, et il est aussi capable de porter une partie de notre message.
Merci Yeshaya d'Alsace pour ces deux semaines de conversations autour de la lumière, je dirais même des conversations lumineuses. La fête continue, les fêtes continuent, puisque ce soir on allumera la seconde bougie de Hanouka, et l'esprit de Noël continuera aussi à répandre sa lumière jusqu'au nouvel an. On dit aussi que la fête de Hanouka est la fête des remerciements et de la reconnaissance. Je voudrais, à l'occasion de cette fête et de cette fin d'année, dire toute ma reconnaissance aux auditrices et aux auditeurs que je sais être toujours aussi fidèles à la Talmudique. Une émission aussi qui n'existerait pas sans la préparation, la construction, les orientations, l'intelligence, l'originalité et la cohérence que lui donne, semaine après semaine, ma collaboratrice Françoise-Anne Ménager. une émission qui n'existerait pas sans le souci méticuleux de notre réalisatrice, Dany Journeau, qui aussi, semaine après semaine, fait en sorte que le navire arrive toujours à bon port, dans le bon format, à la minute près et toujours paré de ses meilleures couleurs. Une émission qui, depuis bientôt 4 ans, a été accompagnée à la prise de son par Philippe Palares, un ingénieur du son de talent, qui prendra sa retraite dans quelques jours, début janvier. Son humour et sa bonne humeur permanente, de l'autre côté de la vitre, comme on dit, a été pendant ces 4 années un ingrédient majeur à la réussite de l'émission. Je le salue de tout cœur et lui dis ma profonde amitié et je lui souhaite, au nom de toute l'équipe, la plus grande réussite dans sa nouvelle vie et dans tous ceux qu'il entreprendra. Je ne serai pas complet sans remercier tous les invités qui nous font le plaisir et l'honneur de venir dans l'émission, chacun amenant avec son savoir et sa personnalité une joie et une lumière inestimables. Et je signale aussi à la prise de son aujourd'hui, Julie Garraud, Cole Touve, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous, encore bonne fête et à la semaine prochaine.
Et moi, au nom des invités, je remercie Marc-Alain Wachnin de savoir toujours renouveler le sens de dimanche en dimanche dans la mission talmudique.
Merci, merci Rabbin d'Alsace, merci Yeshaya.